j'espère que vous allez bien.
7 milliards de voisins, on est ensemble avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Donc on commence ça dans 3, 2, 1.
Eh bien nous ça va très bien. Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins à l'heure d'été avec notre série Vivre en ville. Chaque été, des journalistes ou d'autres invités nous racontent une ville du monde au quotidien avec leur regard d'étranger. Pendant 2 semaines, nous allons respirer d'un continent à l'autre, des villes qui certes ont ce point commun de l'uniformisation urbaine, mais qui en même temps conservent une identité, une atmosphère. Depuis la création de ce rendez-vous estival en direct, on a raconté la vie à Kaboul, comme à Washington, et cet été, eh bien pour le premier numéro de la saison, vivre dans une ville émancipée, Montréal, au Canada, raconté par Marie-Laure Josselin. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour.
Vous êtes correspondante de RFI à Montréal. Vous avez élu domicile dans cette ville nord-américaine depuis combien de temps maintenant ?
Ça fait 9 ans, ça va faire 9 ans le 16 juillet.
Une ville pas tout à fait comme les autres, comme chaque jour dans cette série. C'est vous qui avez choisi le titre, Montréal, ville émancipée. Pourquoi ?
Parce que c'est un peu comme une petite fille qui a les cheveux un peu foufou, frisés, et qui fait ce qu'elle veut, où elle veut. Elle est complètement différente des autres mégalopoles ou métropoles nord-américaines, mais elle est complètement différente aussi du Québec. D'ailleurs, elle a un statut particulier au niveau gouvernemental. Dans les lois qui sont faites au Québec, il y a le réflexe Montréal qui permet de prendre en compte cette différence avec Montréal. Puis c'est vraiment cette petite fille, elle fait ce qu'elle veut, puis on est assez libre.
Et c'est ça. Et s'il y avait une image qui pourrait justifier ce Montréal ville émancipée, où vous vous dites, ah bah tiens, ça y est, là on est bien à Montréal.
Moi, 23h dans n'importe quel quartier, avec mon petit short et mon vélo.
Alors vous restez avec nous, Marie-Laure Josselin, vous allez nous faire vivre cette ville, Montréal, ville émancipée, et vous signez aussi le programme musical.
Je reviens à Montréal, la tête gonflée de nuages, c'est le transit d'Amsterdam qui s'est chargé du glaçage. Je reviens à Montréal, le corps tatoué de visage,
Marie-Laure Josselin, vous avez choisi pour démarrer cette émission Vivre à Montréal, vivre dans une ville émancipée, Ariane Moffat.
Ariane Moffat, c'est léger, c'est gai, c'est ce retour à Montréal où on a l'impression d'arriver, où il y a des visages. Déjà juste à la douane qui est canadienne, on peut avoir une femme avec un hijab qui tamponne son passeport. Mon premier souvenir, moi, c'est mon fils. Le douanier l'a pris, il l'a mis sur ses genoux, puis il a dit voilà, fais que tes parents deviennent résidents permanents. Et c'est mon fils à 2 ans qui a tamponné nos passeports. Donc il y a quelque chose avec Ariane Moffat, justement, de cette fille émancipée. C'est une artiste, elle est gai, elle est avec une femme très brillante, elles ont 3 enfants, elles vivent leur vie entre le chalet et la vie urbaine montréalaise, elles vivent dans un quartier très branché, tout en aimant la nature, en aimant être présente.
Oui, parce que vous dites la nature, parce que Montréal est une ville qui est située sur des axes fluviaux stratégiques au milieu de la nature.
C'est une île. Montréal est une île. Alors les gens, des fois, oublient ça. Ça, son petit désagrément, on peut commencer par ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'embouteillages, de bouchons de circulation, parce qu'il faut rentrer par des ponts ou par un tunnel sous le Saint-Laurent.
Mais le fleuve Saint-Laurent.
Sous le majestueux fleuve Saint-Laurent. Mais voilà, ça veut dire que quand on a envie d'aller prendre une bouffée d'air frais, c'est toujours au coin de la porte de la maison, il y a toujours des parcs partout.
800 km de pistes cyclables.
800 km de pistes cyclables. Il y en a qui font l'hiver. Moi, je vais jusqu'à novembre, je vous l'avoue.
On est encore en été, là, attention. Voilà. N'allons pas tout de suite dans la neige.
Mais donc voilà, là, tout le monde est en vélo, on, circule, on se balade, on va d'un point A à un point B, et ce fleuve qui, avant, je vous parlerai du Mont-Royal après, parce que c'est le poumon de verdure, mais ce fleuve Mont-Royal, où on peut faire tout ce qu'on veut dessus, été comme hiver, parce que les saisons sont toujours quand même reliées, mais c'est agréable d'aller faire du canot. Ouais. Avec mon mari, on prend la voiture, en 15 minutes, on est au milieu de la nature et on fait du canot.
L'eau est partout à Montréal.
Et on se baigne.
Le signe bleu avec un kayak et une veste de sauvetage au-dessus de la pancarte jaune « Danger, risque de noyade », c'est le signe pour mettre à l'eau.
Ça pousse quand même l'eau.
Ben oui, ici ça descend. Là. C'est les rapides de la Chine en fait. C'est l'obstacle naturel quand les premiers explorateurs français sont arrivés. Ben Jacques Cartier a dit à ses marins exténués par le voyage, il dit « Chers amis, il dit après tout ce voyage, on est rendu derrière ces rapides, c'est la Chine. »
C'est vrai ou t'inventes là?
Non, c'est les rapides de la Chine. C'est passé derrière, c'était la Chine. On était arrivé, c'était l'Asie derrière en théorie, mais bon. Petite erreur de navigation, mais dans les faits, c'était l'obstacle. Il n'y a personne qui pouvait passer ici. Avec les navires qui arrivaient, évidemment, de France, ils arrêtaient tous ici. Là. Et après, c'était en canot. Bon, on y va.
Alors, c'était Alex Touchette, Alexandre Touchette, qui est un copain qui fait du kayak. Il est fou de kayak et il va dans les rapides de la Chine. C'est des rapides qui sont quand même, comme le nom le dit, très rapides, un débit assez conséquent.
Mais alors, à combien de temps du centre-ville là,
on est... Ah non, mais lui, il sort de chez lui. Oui. Il sort de... C'est pas de la banlieue, non. C'est comme un quartier de Montréal. On est à quelques stations de métro, je vous dirais, peut-être 10 stations de
et
métro du centre-ville.
Et on se retrouve dans les rapides sur
et
un
lui,
kayak.
Et lui, il sort avec son petit kayak et il s'en va descendre ça... tranquillement à la sortie. Quand,
alors là, le temps est encore un peu clément, mais évidemment, tout le monde attend la neige.
Son Boski.
Ça fait combien d'années que vous venez ici?
Probablement 48 ans.
La première fois, vous vous en souvenez?
Oui, j'ai appris à faire du ski entre les tombes dans le cimetière qui est juste au pied de la colline ici. Nos parents nous laissaient aller comme ça, puis on partait toute la journée dans le cimetière.
Donc vous êtes une Montréalaise pure laine?
Très pure laine. J'ai été élevée à 2 portes de la maison où mon père a été élevé et lui à 5 portes de la maison où sa mère a été élevée, devant la montagne.
Le Mont-Royal, ça évoque quoi pour vous?
Mes premières choses de ma vie. Toutes les premières choses de ma vie. Fumer des cigarettes, embrasser des garçons, grimper dans les arbres, chasser les ratons laveurs. Toutes les premières choses de ma vie. Je viens à pied de chez moi, oui, avec les skis en sacoche. On met l'épaule comme ça, attachée après les skis, puis je marche, j'ai des couvre-chaussures, là, pour pas abîmer les fixations, et ça marche très bien.
Vous sortez de où, là?
De la maison. 10 minutes à pied d'ici.
Et vous aviez quoi sous le bras?
Un bébé. Mes skis.
Vous venez souvent en faire?
Assez régulièrement, dès que je peux. Dès qu'il y a quelqu'un pour garder à la maison.
C'est quoi, régulièrement?
Avant, je venais dès qu'il y avait de la neige, c'est-à-dire... À tous les jours, tous les deux jours. Maintenant, peut-être une fois par semaine ou deux.
C'est quand même incroyable de faire du ski de fond en ville.
Oui, oui, on est content de l'avoir, notre montagne. On la trouve très belle.
Vous n'êtes pas de Montréal?
Non.
Donc c'est quand même un luxe pour les Montréalais?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait, oui.
Votre prénom?
Annie.
Vivre dans une ville émancipée, racontée par Marie-Laure Josselin. On est bien à Montréal, une île au milieu de la nature.
Effectivement, et ce Mont-Royal, ce poumon de verdure, l'été où il y a les tam-tams tous les dimanches, ça c'est un cliché mais un classique aussi. Et en haut, donc des balades à pied, on peut faire aussi du canot, du vélo, ce qu'on veut. Et l'hiver, ben, vous l'avez entendu, du ski de fond. La dame disait, bon je vous rassure, on ne fait plus de ski de fond dans le cimetière, hein. Ça a été interdit depuis, mais la dame avait appris là-bas.
Mais on peut toujours faire du ski. Il y a quelques stations de métro.
Bien sûr, on prend son métro, ses skis à métro et vous allez voir des gens qui passent avec leurs skis, même quand il y a assez de neige, ce qui est quand même assez souvent chez nous, dans les rues, qui partent directement faire leur ski de fond sur le Mont-Royal. Moi, j'ai appris comme ça.
Ce fameux hiver montréalais, les étrangers l'attendent avec appréhension et puis ensuite, c'est l'émerveillement ou qu'est-ce qui se passe?
Le premier est souvent l'émerveillement. Le neuvième est un peu... Il avait commencé en novembre. Il a fini en mai cette année. Donc, oui. C'est un petit peu difficile. Mais on habitue. Moi, je m'habitue. Mon mari sénégalais, un peu moins, on va dire. Mais le moins 40, effectivement, on s'habille en conséquence. Les enfants vont jouer.
Mais il ne fait pas moins 40 tout le temps, en réalité. Non, c'est sur une très courte période.
Non, mais après, moins 20, bon, bah, ça va, c'est sport. Et puis à 10 degrés, là, tout le monde sort. On sort les jupettes. Et puis ça y est, la ville revit. Mais les gens vivent leur nordicité, vivent dehors. Puis même juste
et
sortir.
Leur hivernité, comme on dit d'ailleurs.
Leur hivernité, leur nordicité. Et ça m'a vraiment marqué quand je suis allée à Toronto. Il y avait vraiment une grosse différence. Les gens ne sont pas aussi habillés à Toronto qu'à Montréal où on sort et on va aider le voisin à déblayer sa voiture. C'est de toute manière, on fait du sport tous les matins parce qu'il faut pelleter et gratter sa voiture tous les matins.
Ville émancipée, Montréal, alors c'est, il ne faut pas l'oublier, une ville bilingue, multilingue. Est-ce que la bataille linguistique entre le français et l'anglais est encore perceptible?
C'est encore un sujet très, très sensible pour les Québécois. Récemment, justement, l'Office québécois de la langue française avait sorti des statistiques où il disait qu'à Montréal, les commerçants commençaient à dire bonjour aïe, le fameux bonjour aïe qui voulait être interdit
Le bonjour en bilingue, hein.
Voilà,
aïe
bonjour,
et bonjour,
aïe. Voilà. Et ça c'est vraiment bon, parce qu'on a une loi au Québec qui dit que tous les services doivent être donnés en français obligatoirement, mais à Montréal il y a toutes les communautés et les gens ont peur que le français disparaisse et c'est vraiment une grosse crainte qui revient souvent. Mais les jeunes, même s'ils sont d'accord pour dire bonjour aïe, si on leur parle, si eux disent répondent bonjour, ils veulent qu'on leur serve en français.
Quelle est la proportion linguistique entre le français et l'anglais?
Je n'ai plus le souvenir en tête, mais le français reste quand même majoritaire, c'est clair. Dans les classes anglophones, il n'y a plus assez d'élèves depuis qu'il y a eu des lois, justement. Mon fils ne peut pas aller dans une classe anglaise, dans une école anglaise, par exemple. Mais l'année prochaine, il pourra faire de l'anglais toute l'année.
Ce sont deux sociétés très compartimentées, ou pas?
Oui, c'est deux mentalités, deux cultures différentes, totalement. Il y a souvent des tensions, notamment sur le multiculturalisme en
ça
ce moment
que
d'ailleurs.
Vous n'avez pas d'amis anglophones par exemple?
Ah si, bien sûr, on a des amis, mais les anglophones, pour eux, c'est normal que quelqu'un porte un signe religieux. Pour les francophones, en ce moment, c'est beaucoup plus tendu. Donc ça crée quand même, on va dire, des chicanes. Il y a eu aussi le référendum, puis les Québécois pensent que ce sont les anglophones de Montréal qui leur ont malheureusement amené à la défaite lors des référendums, entre autres raisons. Donc il y a quand même une culture anglophone-francophone qui se ressent.
Alors, il faut bien distinguer les francophones et la communauté française, très nombreuse à Montréal, qui n'est pas nécessairement, d'ailleurs, incluse dans la communauté francophone, qui ne fréquente pas nécessairement d'ailleurs des Québécois.
C'est vrai, il y a de plus en plus et ça s'entend vraiment, vraiment beaucoup. Moi, des fois, je n'ose même plus parler parce qu'il y a des Français autour. Il y a de plus en plus de Français parce qu'ils sont attirés par le rêve canadien. Le taux de chômage est très, très bas. Il y a des emplois partout, donc c'est un peu un rêve de venir.
Un pays qui n'est pas miné par les tensions sociales comme la France aussi.
Effectivement, donc c'est un peu le rêve, mais souvent les Français arrive au Québec, ça parle français, donc c'est français, mais non.
Donc c'est chez moi.
On est en Amérique du Nord. Les codes sont vraiment différents culturellement. Mais il y a des Français, bien sûr, qui sont amis avec des Québécois. Mais on voit quand même un quartier français à Mont-Royal. Puis là, ça crée encore des tensions parce que ça augmente les loyers pour tous les Québécois qui sont là depuis longtemps. Mais je ne dirais pas comme un cliché que les Français ne s'intègrent pas. Il y en a, il n'y en a pas. Il y en a qui préfèrent rester entre eux, comme dans toute communauté.
Alors évidemment, l'âme de Montréal, on ne peut pas faire cette émission sans un artiste anglophone, Leonard Cohen.
Et nous, on dit Leonard.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind.
Son œuvre est marquante. C'est en chanson, mais c'est et les romans qu'il a écrits. Tout le monde connaît ses romans, mais sont très intéressants.
Cette musique, c'est une poésie universelle, ça touche à tout le monde. chaque personne qui lit ou qui écoute ça a l'impression que c'est pour lui-même. C'est une magie qui a été créée et puis, je sais pas, quelque part j'avais envie d'être avec du monde qui pensait comme moi. Je voulais pas être seule à regarder Facebook, à écouter tout ce qui n'allait pas dans le monde.
Très grand, très grand. Moi, je pense qu'il aurait pu y avoir le prix Nobel de littérature, tout comme Bob Dylan l'a eu. Ça, c'est ma guitare de voyage. Puis j'ai dit, je vais venir faire un petit voyage devant sa maison pour sa mort et je vais chanter quelques chansons pour lui rendre hommage.
Comment dites-vous donc à Montréal, Leonard?
Leonard Cohen, c'était le soir de sa mort, les gens venaient de l'apprendre, j'ai couru, j'ai pris mon vélo, mon micro et je suis allée devant sa maison d'enfance. D'ailleurs, quand vous êtes sur le Mont-Royal, en haut du Belvédère, vous avez une vue sur Montréal et ils ont peint son portrait avec son mythique chapeau sur toute une façade, c'est splendide.
Alors c'est un artiste qui a grandi d'ailleurs dans un quartier anglophone. Hein?
Exact.
Westmount?
Westmount, à côté du Myland. De toute manière, vous avez le quartier Est qui est beaucoup plus francophone, immigrant. Grand même, et le quartier ouest qui est beaucoup plus anglophone. Vous avez le Myland, Westmount, c'est très anglophone. L'école française d'ailleurs est dans le quartier anglophone juif, et donc c'est assez compartimenté, mais maintenant on va dire quand même que les gens se mélangent de plus en plus, même si vous avez un quartier italien, un quartier plus où il y a plus d'haïtiens, un quartier où il y a plus de maghrébins, le quartier juif, le Côte des Neiges est plus africain, donc vous avez ces mélanges là, enfin vous avez ces quartiers là, mais quand même, bon, le quartier chinois aussi, mais les gens quand même se côtoient beaucoup plus que dans certaines villes comme Toronto où c'est beaucoup des plus gros quartiers avec des communautés plus figées.
Est-ce qu'on se loge facilement à Montréal dans ces différents quartiers à l'image des communautés?
Alors si vous dites se loger, c'est-à-dire trouver un logement ou combien on le paye, il y a une grosse différence. C'est excessivement moins cher qu'à Paris, c'est excessivement moins cher qu'à peu près partout, donc c'est assez facile de trouver un espace où respirer et pas être enfermé ou même de pouvoir acheter. Mais en ce moment, on a un problème de logement, il y a de moins en moins de logements.
Parce que les prix ont monté, hein, néanmoins.
Parce qu'il y a moins. C'est une île, alors à un moment, on ne peut plus construire. Donc il y a aussi ce problème-là. Donc il y a des problèmes pour trouver des logements. Les prix augmentent, mais on n'est pas rendu à des prix complètement fous. Et puis vous avez le 1er juillet, c'est traditionnel. Tout le monde déménage le 1er juillet. C'est une institution. Donc c'est un peu. Si vous voulez brader chiner.
C'est-à-dire que quand on loue forcément pour un an?
On loue pour un an, on fait un bail d'un an.
Y compris pour les familles avec des enfants?
Oui, alors on peut modifier, mais généralement le bail habituel c'est un an et ça commence le 1er juillet, ça termine le 30 juin. Si tu veux un camion de déménagement avec des déménageurs, il faut t'y prendre vraiment à l'avance. Et t'es même pas sûr qu'ils vont venir, parce que peut-être qu'ils auront eu une meilleure offre ailleurs. Fait que tu demandes à tes copains de venir t'aider, là t'es au moins sûr de ça, et puis tu payes la pizza et la bière à la fin.
Le marché du logement, alors Montréal perd des habitants aujourd'hui, au profit de la banlieue, oui. Où les Canadiens ont envie de faire construire une maison avec un jardin, toujours aussi cet attrait de la nature.
Mais c'est parce que Montréal devient... Les villes autour aussi commencent à offrir quelque chose de culturel, intéressant, sportif. Les familles n'ont plus forcément tout le temps, mais c'est surtout quand on commence à être une famille, on n'a plus envie puis d'être à Montréal. Et les maisons, c'est pas si fréquent. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une petite maison pas loin d'un métro. C'est devenu ma maison. Elle a pris beaucoup de valeur en quelques années, par exemple, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et donc, si tu as une famille et tu as envie d'un jardin... Il faut les trouver, il faut vraiment s'éloigner.
Et quand on est locataire, c'est pas le parcours du combattant comme à Paris, où on vous demande la déclaration de revenus, les feuilles de paye, le contrat de travail, parce que le propriétaire veut à tout prix sécuriser son revenu locatif.
Il y a même pas de caution.
Et alors quoi? Ça veut dire qu'on est sur une culture de la confiance?
Ah, complètement.
Ou que le marché est tellement fluide que le propriétaire, de toute façon, s'il n'est pas payé, il pourra mettre dehors son locataire mauvais payeur?
Non, ça c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, le locataire est quand même quelqu'un qui a beaucoup de droits. Il y a la régie du logement qui est là pour réguler le tout. Mais c'est vrai que quand vous dites que c'est une culture de confiance, c'est une culture de confiance. Le nombre de fois où j'ai laissé mes clés sur ma porte, un voisin ou quelqu'un est passé là, le nombre de fois où ma mère en vacances est montée dans la voiture d'un inconnu voisin parce qu'elle s'est trompée de voiture et c'était ouvert. La carte de crédit tombe par terre, on va la ramasser. Après, il y a effectivement quand même des communautés qui ont plus de difficultés à trouver des logements. Les immigrants, les autochtones, les Premières Nations, beaucoup plus de difficultés à trouver des logements. Ce que les gens font, c'est qu'ils donnent des chèques post-datés pour montrer qu'ils peuvent payer pendant un an. Mais c'est pas comparable à Paris, ça c'est certain.
Vivre dans la ville émancipée, on est bien à Montréal, au Canada, avec vous, Marie-Laure Josselin.
Qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Reviens un gamin. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe? Vous, ah oui, vous êtes sans vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera
longtemps qu'on l'a pas vu.
Ça fait avec plaisir.
Vous avez pleuré?
Non, pas pleuré, sourire.
J'attends mon cousin, jamais vu. Il a 23 ans. Alors, on a toujours communiqué par Facebook, Skype et j'ai hâte de le voir. Je sais pas si on peut décrire qu'est-ce qu'on sent. C'est la joie, des palpitations, toutes les émotions qu'on vit aujourd'hui.
C'est la diversité des accents aussi dans la ville émancipée. Montréal, Marie-Laure Josselin, vous signez le programme musical. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre juste avant ces témoignages d'étrangers attendant de la famille?
Alors, c'était La Bronze. La Bronze, c'est donc une Québécoise d'origine maghrébine qui a grandi donc en banlieue montréalaise et puis qui a fait cette version de Stromae. Nous, on dit Stromae.
On dit ça aussi.
Ok, je sais pas si on disait trop mal. Qui s'est mis aussi sur un toit de Montréal avec vue sur Montréal et qui a sorti cette version assez puissante. Mais je trouvais qu'elle représentait aussi beaucoup la diversité et Montréal, ce mélange culturel. Il y a plus de 120 communautés. 70% des immigrants, quand ils arrivent, s'installent à Montréal. Donc, je pense c'est un tiers de la population qui est de Montréal et c'est de la ville et ses alentours.
D'origine étrangère.
Donc, c'est sûr que. quand vous vous baladez, vos oreilles entendent de tout, partout. On croise des gens qu'on a croisés. Moi, j'ai habité Dakar. Hey, salut, tiens, maintenant t'es là, c'est normal.
Oui,
quoi.
Oui, pas mal de Sénégalais, en effet. Montréal, la ville émancipée et en même temps qui n'est pas épargnée par un certain débat, un certain populisme aussi.
Oui, ça c'est certain. On a eu une loi sur la laïcité qui vient d'être votée il y a quelques semaines et qui a eu beaucoup de répercussions parce que Montréal étant très multiethnique, ça crée des crispations. Elle demande cette loi, c'est la loi sur la laïcité, elle demande que les professeurs ne soient pas voiles. Entre autres, on va dire le plus gros de la loi, c'est de dire qu'on ne veut pas de professeurs femmes voilées, pas de signes religieux distinctifs. Et ça a créé beaucoup de tensions parce qu'à Montréal, il y a beaucoup d'immigrants. Il n'y a pas non plus des milliers de femmes qui enseignent. Au corps de police de Montréal, moi j'avais téléphoné, on m'avait dit qu'il y avait personne qui portait un hijab ou le turban, enfin pour les cheveux, pour les sikhs, mais Montréal voulait quand même, la mairesse avait demandé d'avoir un statut spécial et pas que pour ça, par exemple pour l'industrie du taxi, pour plusieurs lois, Montréal demande souvent un statut on va dire d'exception, parce que justement, ce qui peut s'appliquer un peu plus en région est beaucoup plus difficilement applicable à Montréal et donc ça a créé des tensions. Il y avait vraiment un clash de générations et un clash entre Montréal et le reste du Québec.
Ouais, et voir le reste de l'Amérique du Nord.
À Toronto, c'est normal. Au Canada, le NPD, qui est un des trois partis, les plus grands partis du Canada, le chef du parti, Jamek Singh, il est sikh et il porte un turban tous les jours de couleurs différentes. C'est normal, ça choque personne. Notre ministre de l'armée canadienne porte un turban parce qu'il est sikh aussi. Donc, vous voyez ce décalage entre le milieu anglophone et le francophone du Québec, il se ressent beaucoup là.
C'est ça, qui aspire à une conception de la laïcité pour le versant francophone. Vous parliez de la mairesse, c'est comme ça qu'on dit chez vous.
On dit la mairesse,
voilà,
exactement.
Nous on dit la maire, mais Montréal est donc dirigée par une femme.
Dirigée par une femme, Valérie Plante, une de ces grandes villes, une de ces rares grandes villes dirigée par une femme très dynamique, très jeune. Elle est née en 74, si je ne me trompe pas. Elle a un dynamisme fou. Bon, les gens rigolaient beaucoup parce qu'elle sourit tout le temps, mais elle a une poigne d'enfer. Elle va de l'avant, elle sait ce qu'elle veut. Donc, c'est vraiment intéressant de voir à quel point elle essaie d'amener sa ville de l'avant et à quel point aussi, des fois, elle s'oppose au gouvernement en disant « Non, ça ne s'applique pas pour nous. Moi, je ne veux pas ça. » Et elle va de l'avant avec ça. Donc, c'est vraiment intéressant de voir cette femme. Et ça fait aussi peut-être partie de cette émancipation, même si les maires précédents, tous hommes, puisque c'est la première femme à diriger Montréal.
Et très peu de femmes dans le club international des maires de très grandes villes. Montréal, c'est une ville, Marie-Laure Josselin, qui a été bâtie sur des bases autochtones. Et ça aussi, ça n'en finit pas de faire débat.
Je pense que j'en ai pas de rêve. Tout le monde a son idée sur c'est quoi notre passé, là. Tout le monde a son idée sur ce qu'est un Indien, sur comment être un Amérindien, puis comment mériter d'être Amérindien. Ça, là, tout le monde va te le dire. Le gouvernement, les Blancs, les Indiens surtout, puis même ton frère. Mais tu sais, Chanis, là, d'après moi, là, il existe autant de façons d'être Innu qu'il existe d'Innu dans le monde. Si je te dis Madame Tagwan, tu me comprends?
Ma what?
C'est ce que je me disais. Tu me comprends.
Tu es raciste, je peux pas... Oh,
non, c'est pas...
C'est une raciste, je peux pas...
Non, c'est pas le raciste, c'est une conne, c'est pas pareil.
De quoi tu parles?
Une conne, ça se cale tout seul, ça a pas besoin de se faire fesser dessus pour se caler encore plus.
Ouais, mais...
Choisis tes combats, tu vas t'épuiser à vouloir casser la gueule de tous les crétins dans le monde.
Mais non, j'ai jamais vu te rabaisser, je te dis juste que j'ai eu de la compassion pour ceux que j'ai vu dans
le... Compassion?
Ouais, c'est quoi le problème?
Arrête donc de faire semblant de nous prendre en pitié.
Je te prends pas en pitié? C'est quoi, j'ai pas le droit d'avoir été touché par quelque chose? De le partager? Ah, parce que toi, monsieur, c'est de quoi il s'agit. Monsieur connaît la vraie réalité, donc moi, j'ai pas le droit de parole. J'ai pas le droit d'être touché sacrement. C'est pas parce que je suis ignorant sur le sujet que ça fait de moi un raciste. Celui qui est méprisant en ce moment entre nous deux, là, c'est toi.
Se souvenir que Montréal a été construit sur un territoire indien, Marie-Laure Josselin.
Alors oui, et je vais tout de suite me permettre de faire un peu de pédagogie. On n'utilise jamais le mot « indien ». au Canada. Les autochtones sont les métis, donc les descendants des colons français et anglais, et avec des autochtones.
Et là, dans la pièce, ils disent indien,
ils disent indien parce que c'est une pièce autochtone jouée par des autochtones, puis ils reviennent sur des racines
anciennes. Donc seuls les autochtones ont le droit de parler d'indien?
Non, là, parce qu'il a dit indien et tout de suite après, il a dit amérindien. Oui. Donc il y a les Premières Nations et les Inuits qui font partie des autochtones, mais c'est vrai que souvent, on voit des Français ou des étrangers qui oui. viennent, qui disent, sont où les Indiens?
Oui. Mais qui ne pensent, d'ailleurs, qui, pas par racisme.
Non, hein, mais à cause de Tintin aux Amériques, quoi. Oui. C'est ça. Mais ils n'aiment pas vraiment ça, mais... Avec l'arrivée de Justin Trudeau au Canada, on voit qu'il y a eu quand même déjà un début de réconciliation avec les peuples autochtones. Mais la ville
on a débaptisé des lieux aussi.
On a débaptisé des lieux et la ville de Montréal a été la première ville à changer même son drapeau pour mettre un pin blanc en symbole. Il y avait la fleur de lys qui voulait dire la France, le trèfle irlandais ou écossais, je m'excuse. Et là, on a mis le pin blanc pour montrer que Montréal a été bâti sur des terres autochtones. Et maintenant, souvent, quand on commence une conférence, on remercie les autochtones pour laisser faire cette conférence sur une terre autochtone. Une rue vient d'être débaptisée, c'était la rue Amherst. Amherst, c'était un général anglais qui était fort peu sympathique, on va dire, qui voulait tellement exterminer les autochtones qu'il donnait des couvertures pleines de variole. Et donc, la ville de Montréal a décidé de débaptiser et lui donner un nom autochtone, Adadaken, si je ne m'abuse, et qui veut dire en fait fraternité, là où les gens se rencontrent. Et Montréal était de toute manière, avant même sa construction par les colons blancs, un lieu de rencontre pour les autochtones.
Alors aujourd'hui, en tout cas, c'est un haut lieu de rencontre intellectuelle. Montréal est avant tout une ville universitaire et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'elle attire énormément d'étudiants, de Français parce que les universités sont moins chères que dans le reste de l'Amérique du Nord.
Ça
parce qu'il y a un statut aussi et des accords bilatéraux entre la France et le Canada. Mais c'est vraiment une ville universitaire, Montréal.
C'est une ville universitaire. Il y a plusieurs universités. On dit qu'il y a 11 campus universitaires parce qu'il y a aussi des universités de Québec qui ont des petits campus.
Alors c'est énorme sur une ville de quoi? De 2 millions d'habitants?
2 millions, il y a,
campus,
il y a environ 200 000 étudiants. Et donc,
donc 10% de la population, c'est des étudiants.
Oui, et c'est très dynamique. C'est ça qui est vraiment super chouette. Il y a des universités anglophones, des universités francophones, des universités qui sont un peu plus politisées que d'autres. C'est vraiment intéressant. Et effectivement, l'intelligence artificielle, on voit que... moi, j'ai fait un reportage, il y a des étudiants qui viennent d'Inde qui, avant, allaient automatiquement vers la Silicon Valley, automatiquement vers les grandes universités américaines, c'est fini, ils viennent vers Montréal maintenant, ils viennent vers Toronto parce que justement l'intelligence artificielle, les grands noms comme Yoshua Benjo qui est la sommité en intelligence artificielle est à Montréal, un campus vient d'ouvrir, ils investissent beaucoup d'argent, ils facilitent aussi avec des lois pour faire venir. Donc,
Fiscalité attractive
aussi, très rapidement les gens peuvent avoir leur résidence permanente pour devenir canadien ou pour rentrer en tant qu'étudiant, c'est une facilité et puis les conditions sont quand même, les loyers sont moins chers, vous l'avez dit. Il y a la nature, les conditions de vie sont superbes.
Et puis les universités financent aussi beaucoup la recherche sur l'intelligence artificielle.
Sûr. Non, on est en plein boom.
Montréal veut devenir, vous le disiez, la Silicon Valley de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle pourra vraiment rivaliser avec les États-Unis, avec la Chine?
En tout cas, le Canada est déjà, en termes de... Une étude fait que le Canada, avec Montréal, Ottawa, Toronto, c'est Toronto qui est la quatrième ville, mais Montréal est déjà dans les 30 premières villes pour tout ce qui est techno-intelligence artificielle. Si on prend l'intelligence artificielle pour les maisons, pour son côté abordable, elle se classe en premier.
Ouais. Néanmoins, Montréal n'est pas la capitale économique du Canada.
Non, c'est sûr, c'est pas la capitale, on reste quand même Toronto, parce que, mais pour le Québec, c'est pas la capitale du Québec, mais c'est quand même la métropole, et c'est là où on va dire tout se passe.
Alors, il y a la nature, il y a l'intelligence artificielle, il y a le business, il y a les start-up, mais il y a aussi quand même aussi beaucoup la fête. Ça aussi, ça participe au titre que vous avez donné à l'émission, Marie-Laure Josselin, Montréal, ville émancipée.
Aujourd'hui, c'est notre première chasse. On les a trouvés.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le concept?
L'aspect communautaire. Alors, regardez, ils viennent d'arriver, là. Ils n'étaient pas attendus. Puis la fête est prise au village. Ça s'est perdu avec le temps, mais j'apprécie beaucoup l'initiative de ramener ça au goût du jour, en fait. Tout le monde a du plaisir. Puis il fait beau, même s'il fait un peu frais. C'est parfait.
On est venu s'amuser. J'ai grandi avec ce genre de musique. Mon père était violoneux. On chantait beaucoup à la maison. Et puis, on jouait du piano, puis on jouait de la guitare, puis tout ça.
Et vous dansiez parce que vous n'arrêtez pas, là?
Oui, oui, j'aime danser. Toutes les danses.
Moi, c'est plus la créativité que je trouve intéressante là-dedans, de
L'idée du balcon, l'idée de trouver où sont les musiciens, d'explorer des avenues différentes. C'est multigénérationnel, si je peux m'exprimer ainsi, et multiethnique, et tout le monde ensemble. La musique, c'est bon pour le moral.
C'est pas la fête au village, c'est la fête au quartier. Ça s'appelle la chasse balcon, Marie-Laure Josselin.
Eh oui, c'est alors il y a déjà beaucoup de festivals à Montréal, plus de 80. Fin juin, début juillet, vous avez les Franco, vous avez festival de jazz, Nuit d'Afrique. Et puis si vous n'avez pas envie d'aller aussi loin, eh bien c'est ce qui s'appelle la chasse balcon. C'est une petite troupe de musique.
Ça fait très folklorique quand même.
C'est
hein,
de la musique trad, on dit. Elle a dit violonneux. Là, mon père était violonneux, donc il faisait du violon. Et donc ils se mettent. Si vous avez envie de participer, vous avez un balcon, vous dites, moi j'aimerais ça que vous veniez faire la fête sur
mais
mon balcon.
Ça marche aussi sur les habitants qui ne sont pas d'origine européenne.
Oui, ça, mais en fait c'est ça, ça attire le quartier, tout le monde se met ensemble et a envie de parler. Quand j'arrive, on va organiser une fête de quartier, puis on essaye de bloquer la rue pour mettre tous les voisins ensemble au milieu de la rue. Cette festivité, il y a des festivals dans les parcs, il y a de la musique partout l'été, mais pas que l'été, l'hiver aussi. Quand je vous dis qu'on vit notre nordicité, l'hiver, Igloo Fest est un festival de musique techno extrêmement connu, où c'est l'endroit où il faut aller l'hiver. Il y a les pique-niques électroniques l'été aussi, c'est un peu le même style. Il y en a en fait pour tous les genres aussi, c'est vraiment... En fait, c'est cool.
Il y a eu, c'est ça, c'est cool, comme vous dites. Hein. 80 festivals par an, c'est énorme par rapport à beaucoup d'autres villes qui ont la même taille et qui ont peu d'activités culturelles. Beaucoup d'humoristes, les humoristes français viennent à Montréal pour se revigorer. Ils disent qu'il y a énormément de compétitions, par exemple,
parmi les
humoristes. Effectivement, c'est une scène qui est très dynamique.
Mais le Québec est quand même, il n'y a pas beaucoup de population, mais il y a énormément d'artistes. C'est hallucinant, le côté artistique. Être artiste, c'est un métier, ok? Québec, à Montréal. C'est pas un hobby, c'est vraiment un métier. Et ça, c'est super chouette. Puis quand on va dans les festivals, ce qui est aussi agréable de Montréal, on n'en a pas parlé, c'est la sécurité. C'est sécuritaire. Il n'y a pas des agents de sécurité. Quand je suis allée à la piscine à Paris, je sais que je suis à Paris, mais ça m'a un peu marqué toute cette sécurité. Je comprends. Mais à Montréal, on est épargné par ça. On est vraiment libre. On se balade le soir n'importe où comme on veut, à vélo, en patin, en skate. Ça fait aussi partie de ce charme de ces festivals qui peuvent encore se faire parce qu'ils n'ont pas un coût peut-être encore trop grand, parce qu'il n'y a pas plein de sécurité, puis parce que les artistes aiment venir à Montréal l'été, les artistes adorent venir à Montréal. Il y a une effervescence.
Une effervescence, comme vous dites, dans la ville émancipée, Montréal, et évidemment une vraie scène rap aussi ici, dans la ville émancipée.
Elle sourit pour les miroirs et les lentilles, quand elle m'envoie des photos, elle est sans filtre. Je me fais tirer les ficelles par des filles superficielles sur leur sans-fil. Impeccable. Comment t'agences ta robe à tes talons? As-tu déjà pensé agencer ta parole à tes actions? I'm just saying. C'est pas toi, I'm just saying. J'tends toujours pour le même truc. Ah, les magiciens. J'ai encore vendu mon âme pour une âme sœur. Je sais, j'avais promis d'arrêter. Je croyais que j'avais trouvé la bonne pour de bon, but my shorty got away. À chaque fois, c'est la dernière danse. Et puis le refrain revient lentement. Tant qu'on aura le rythme, for real, I ain't gotta worry about a thing. I ain't worry about a damn thing. Toutes les femmes savent danser. Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. À travers le monde entier. Oh, she got it, now she can't let go. Toutes les femmes savent danser. Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. Tant qu'on aura le rythme, for real, I ain't gotta worry about a thing. I ain't worry about a thing. Maintenant tu m'attends sur ma deuxième ligne. J'avais que tu rappellerais one of these days. Mais t'en fais pas, mon cœur est flexé. Tu peux le squeeze mais pas le briser. Oublie le passé, on fait comme de rien. Tu veux passer la nuit, y'a aucun problème. Mais t'es mieux d'appeler la job. Dis que tu recommences à neuf mais que tu travailles pas demain. J'ai encore vendu mon âme pour une âme sœur. Je sais, j'avais promis d'arrêter. Je croyais que j'avais trouvé la bonne pour de bon. But my shorty got away. À chaque fois, c'est la dernière danse. Et puis le refrain revient lentement. Tant qu'on aura le rythme, for real, I ain't gotta worry about a thing. I ain't worry about a damn thing. Toutes les femmes savent danser. Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. À travers le monde entier. Oh, she got it, now she can't let go. Toutes les femmes savent danser. Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. Tant qu'on aura le rythme, for real, I ain't gotta worry about a thing. Thank you.
petit rap bien de chez vous, Marie-Laure Josselin, dans la ville émancipée Montréal. Toutes les femmes savent danser, c'est une chanson bilingue.
Oui, c'est Loud, c'est un petit jeune rappeur qui il a l'incarnation du cool. Oui, vous voyez marcher en écoutant ça dans vos oreilles dans Montréal ou à vélo, c'est exactement ça, avec tous les paysages autour. C'est
mais à vous écouter, on a l'impression qu'en fait, on ne travaille pas beaucoup à Montréal, finalement.
Ah, si, si, quand même.
Non, il faut le redire, c'est ça. Les Canadiens ont très peu de vacances par rapport à la France.
Oh oui. C'est entre 1 et 3 semaines au début, au bout de 10 ans, 4 semaines.
Ouais.
Donc, et les enfants n'ont pas beaucoup de vacances non plus. Il n'y a pas de... En novembre, il n'y a pas... Et quand ils rentrent à l'école le 27 août, ils finissent jusqu'en décembre. Donc, mais là, ils ont déjà fini.
Donc, il faut rendre la vie quotidienne plus agréable.
Mais aussi parce que les conditions, l'hiver, c'est sympa, mais c'est dur. C'est dur parce qu'il n'y a pas de soleil. Le soleil se couche très tôt, 4h30. Donc, je pense qu'il y a tout ça qui fait aussi que quand l'été revient, mais la vie revient, mais vraiment, elle explose, en fait.
Montréal by night, alors même l'hiver, ça fonctionne. Mais alors, moi, j'ai découvert une particularité tout de même par rapport à deux grandes capitales internationales. Plus de vente d'alcool après 3h du matin.
Oui.
Donc tout ferme, les boîtes de nuit ferment, il n'y a plus rien quoi après 3h pratiquement.
Il y a des afters, il y a des petits trucs comme ça, maintenant j'en fais plus beaucoup, donc il faudrait que je reparte dans mes souvenirs d'étudiants.
Non mais il faut demander aux étudiants, ils sont quand même assez scotchés quand ils arrivent.
Oui, mais en fait ça commence plus tôt aussi par contre, les gens mangent plus tôt, à 6h, 6h30, les gens dînent, soupent plutôt, et puis après les sorties se font plus tôt, on commence déjà à prendre le 5 à 7, c'est-à-dire boire des bières entre 5h et 7h, avec 3h. Heures, on a déjà pas mal consommé, non ?
Alors, il faut parler du cannabis parce que le Canada est devenu l'année dernière la première nation du G7 à autoriser le cannabis à des fins récréatives. C'était une promesse électorale de Justin Trudeau. Chaque province gère la légalisation comme elle le souhaite.
Et la vente, oui.
Et la vente. Et Montréal ne fait rien comme les autres.
Et non, parce que Montréal, justement... Alors, le gouvernement canadien a dit « je vais légaliser et les provinces... » débrouillez-vous. Mmh. Alors chaque province, il y avait quand même des balises, comme 18 ans, pas en dessous de 18 ans, il y a des quantités de production dans la maison, c'est 4 plans. Mais le Québec, le gouvernement du Québec, lui aussi, aime aussi être particulier du Canada, veut interdire par exemple la production à la maison et la consommation dans les lieux publics. Mais la mairesse, Valérie Plante, madame la maire de Montréal, a décidé, a demandé justement d'avoir une exception pour Montréal, parce qu'elle dit les locataires ne peuvent pas fumer dans leur maison, et il y a énormément de locataires à Montréal, donc où est-ce qu'ils vont, ça sert à quoi finalement de légaliser si ils ne peuvent pas fumer, donc elle demande à ce qu'on puisse fumer dans des lieux publics. Après, chaque arrondissement aussi dit ici on peut, ici on peut pas, mais effectivement vous allez dans Montréal, il y a quand même pas mal de succursales de la SQDC qui vend le cannabis à Montréal, vous rentrez un peu comme pour aller acheter du vin et vous dites mais moi je voudrais un peu tel goût, je veux que ça me fasse tel effet, et puis vous repartez avec votre petit pote, comme on dit.
Ça a eu quel effet, la légalisation du cannabis?
Effet dans quel sens? Ça a eu, mais...
Non, parce que vous savez qu'en France, bon, il y a un grand débat à nouveau, il y a des députés qui ont réclamé de nouveau la légalisation du cannabis, et puis on n'en sort pas finalement de ce débat.
Mais il y avait déjà la légalisation pour des fins médicinales, donc je pense que l'étape avait déjà commencé. Ça dépend vraiment des provinces, et puis il y a quand même des balises qui sont là avec les provinces qui peuvent avoir un petit peu de marge. Il y a toujours des discussions, il y aura toujours des discussions. C'est quand même quelque chose qui a été prohibé pendant un siècle. Donc, il y a aussi une mentalité à changer. Mais on voit vraiment que les gens sont plus à l'aise. Mais ça ne veut pas dire que ça fume partout. De toute manière, très, très franchement, dans tous les festivals, ça fumait déjà. Donc,
Beaucoup disent qu'ils continuent d'acheter au marché noir parce qu'en fait, c'est beaucoup plus cher dans les commerces légaux de cannabis.
Beaucoup plus cher, et surtout, il y avait une pénurie. C'est le gros problème, c'est qu'il y avait une pénurie, ça ne suivait pas la demande, l'offre ne suivait pas la demande. Donc ils ont dû, tout doucement, ils sont en train de mettre ça, on va dire, en place et que ça fonctionne. Il faudra voir les effets.
Plus long terme, parce que là, on n'a que quelques mois de recul, finalement.
Oui, mais aux États-Unis, ça n'a pas dit forcément qu'il y avait eu plus de consommation chez les jeunes. C'est vraiment pour les jeunes qu'il y a, on va dire, un gros débat, parce que les Canadiens, les Québécois sont quand même des fumeurs.
Ouais.
Pas tous On s'entend, mais quand même.
Bien qu'il travaille beaucoup aussi. Alors, la prochaine étape, c'est peut-être le cannabis dans la cuisine, je ne sais pas. En tout cas,
c'est la prochaine étape. Début novembre, il y a déjà un livre qui de recettes qui est sorti. Oui, parce qu'on ne peut pas lancer des feuilles de cannabis ou des petites cocottes comme ça dans son bœuf bourguignon pour rien. Là, ça me faut doser.
Bon, en tout cas, la gastronomie, pour l'instant, québécoise, montréalaise et sans cannabis. Et on en dit quelques mots dans quelques instants avec vous, Marie-Laure Josselin.
Comment pour toi, un tartare, une crevette, un gravlax, tu lui donnes un agneau, deux cerfs saignants.
Ouais. Je vais le savoir après ce que c'est. Ouais. C'est croustillant, c'est bon, c'est goûteux.
On travaille beaucoup sur la récupération alimentaire.
Ah, c'est de la pure d'asperge.
Ouais. Wow. Ouais. Récupération, c'est bon. Parce que tout se consomme, tout se mange. Pourquoi je fais ça dans les poubelles?
Alors, la gastronomie à Montréal, c'est une blague ou pas quand on est français?
Mais non, parce que si on va dans d'autres ailleurs au Canada, c'est à Montréal qu'on veut manger quand on est français. Il y a vraiment, là on était au Toquet dans ce reportage, c'est un des plus grands chefs presque au monde. Oui, il est dans les 50 premiers chefs au monde.
Et là, avec une cuisine durable à base d'épluchures, donc pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
Exactement, lui est presque 100% écolo. Ses épluchures d'asperges en chips, je ne sais jamais comment. Mon cerveau doit toujours se réadapter entre la France ou ailleurs et le Québec. Et juste, ces épluchures d'asperges sont incroyables. Mais alors, il y a quand même beaucoup de junk food, là, des hamburgers, des hot dogs, des frites. Soit à peu près 65 restaurants par kilomètre carré, si je ne m'abuse. À Montréal, ça fait quand même beaucoup. Donc, les gens mangent beaucoup dehors, mais il y a accès à des marchés où on peut avoir ce qu'on veut. Les gens ont des potagers aussi, des potagers qui partagent, comme dans des grandes villes. Donc, on peut trouver des bons restaurants à Montréal. Et en plus, comme il y a ces multi-ethniques, on en trouve de partout et ça, c'est vraiment cool.
Et si vous deviez quitter Montréal à tout jamais, Marie-Laure Josselin, qu'est-ce qui vous manquerait le plus à vous, la Française que vous êtes?
Par rapport à partout où j'ai vécu, je pense que c'est le sentiment de liberté et de sécurité en tant que femme. Vraiment, je me sens jamais en insécurité, je me sens bien, je peux aller où je veux.
Ni regarder, ni observer.
Je rigolais avec mon t-shirt, mais nulle part ailleurs, je m'habillerai comme ça. Je me sens bien, je me sens libre là-bas.
Eh bien, merci Marie-Laure Josselin de nous avoir fait partager un peu de cette vie à Montréal, la ville émancipée, racontée par une femme. Toutes nos émissions sont à retrouver en podcast pour se transporter le temps d'une sieste dans une autre ville. Et merci d'être passée par le studio.
Au plaisir.
De 7 milliards de voisins. L'émission est signée Sigrid Azéroal, Cécile Lavolo, à la réalisation Romain Dubrac. Et demain, vivre dans une ville frontière, Lomé, au Togo, raconté par Rima Hammer.